Comme vous avez pu constater depuis de nombreuses années, les épîtres pendant le carême sont tirées de l'homélie sur le sacerdoce du Christ. Dimanche dernier, mais dans le désordre, en fonction du dimanche du carême, on prend des passages de cette épître au milieu, à la fin, au début, dans le désordre, mais intentionnellement dans la pédagogie du carême. Et si vous vous souvenez, dimanche dernier, au sujet de la même épître, nous voyions le rôle de la foi, et que le carême, que je résume grossièrement, mais je ne vais pas recommencer le mêlé de dimanche dernier, que globalement, le carême consiste à acquérir la foi et à l'exercer comme les prophètes de l'Ancien Testament l'avaient fait, n'est-ce pas? Et aujourd'hui, l'épître d'aujourd'hui, nous voyons quel est l'objet de la foi. Nous voyons qui est le Christ. En effet, avant d'arriver au scandale de la semaine sainte, de la totale abnégation du Christ allant jusqu'à la dérision et jusqu'à la crucifixion, donc la mort, avant d'être ébranlé dans notre foi en voyant jusqu'où un Dieu, enfin le Dieu, peut aller, l'Église et l'auteur de cette épître met devant nos yeux, pour nous rassurer, comme l'Évangile avait mis devant les yeux des apôtres la transfiguration avant la Passion. Dans cette épître-là, nous voyons aussi qui est le Christ, pour que lorsque l'épreuve viendrait, nous ne soyons pas ébranlés. Car épreuve, il y a vraiment. Tous, pas simplement à cause de la semaine dite de la Passion, la semaine liturgique de la Passion, mais nous sommes éprouvés aussi dans notre foi, dans la mesure où nous entendons des réflexions, soit de l'extérieur, soit de notre propre cœur. Si Dieu était vraiment Dieu, si Dieu était bon, parce qu'on ne conçoit pas que Dieu puisse ne pas être bon, si Dieu était bon, ça, ceci et cela n'arriverait pas. Or, cela arrive, et pourtant, il paraît que Dieu est bon. Donc, pour que nous ne doutions pas de sa bonté et de ce qu'il fait pour nous, l'Église met devant nous le témoignage qu'elle reçoit de l'Esprit Saint de qui est le Christ. Je vous ai étonné, et c'était mon but, en vous disant que cette épître était tirée de l'homélie sur le sacerdoce du Christ. Vous croyiez que c'était de l'épître aux Hébreux, n'est-ce pas? Eh bien, vous aviez raison, c'est de l'épître aux Hébreux, bien sûr. Mais l'épître aux Hébreux est un des textes les plus difficiles du Nouveau Testament, dont on ne connaît ni l'auteur, ni l'époque où elle était composée, ni à qui ça s'adressait. On dit les Hébreux, on ne voit pas en quoi les Hébreux seraient directement concernés. Et là-dessus, tous les exégètes ont des théories plus ou moins sérieuses ou plus ou moins fumeuses. Évidemment, j'en serai moi aussi de mon petit couplet. Et il me plaît à croire, puisque il se pourrait, ça c'est pas moi qui l'invente, il se pourrait que cette homélie-là ait été prononcée à Éphèse, et sous toute réserve, puisque personne ne sait, depuis l'époque patristique, on discute pour savoir, pour connaître et résoudre ces énigmes-là. Et si c'est, il y a tellement de relents, tellement de ressemblances dans cette épître, il y a tellement de ressemblances avec la doctrine de Saint Jean, que ça pourrait aussi être une première homélie qu'aurait fait Saint Jean à Éphèse, peut-être, et qui aurait pu servir soit d'homélie pour les dimanches, soit comme préparation pour les catéchumènes avant le baptême de Pâques, pour qu'ils sachent qui est le Christ. Quoi qu'il en soit, l'importance pour nous est de voir, dans la lecture de cette épître aux Hébreux, de voir que tout tourne autour de non seulement la personne du Christ, mais quelle était sa mission. C'est pour ça qu'on pourrait l'intituler, mais bien sûr elle ne s'appelle pas comme ça, l'homélie sur le sacerdoce du Christ, que le Christ est vraiment le lien entre le ciel et la terre, et entre Dieu et les hommes, et vous savez pourquoi, mais le passage d'aujourd'hui insiste sur cet aspect-là. Le texte que nous avons aujourd'hui est une espèce d'apologétique, une espèce de plaidoyer, si je puis dire, pour prouver que le Christ est d'origine divine, que le Christ est Dieu, pas tout à fait juste, mais qu'il est vraiment 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 Dieu et qu'il nous conduit à la vie et qu'il nous conduit à la vie éternelle. Ce qui nous fait dire que c'est une épître certainement très ancienne, c'est que dans cette épître-là, il n'y a aucune allusion à la prise de Jérusalem qui s'était déroulée en 70, ni de la chute, ni de la du sac du temple, de la destruction du temple. Or, dans une telle épître, si cet événement-là était passé, c'était un tel cataclysme pour tous les Juifs, pour les Hébreux justement, qui ont ce nom dans l'épître, il y aurait certainement eu mention de cet événement-là. Or, il n'y a aucune mention de cette période, donc une allusion à cette période, même d'une manière prophétique, ce qui fait dire que c'est une épître qui aurait pu être écrite, composée avant 70, avant 70 après Jésus-Christ, évidemment. Donc aujourd'hui, nous voyons l'objet de la foi, ce premier, deuxième dimanche de carême, l'objet de la foi, ce qui correspond tout à fait d'ailleurs au thème de la fête que nous célébrons de Saint Grégoire Palamas, qui a été le dernier père de l'Église, si on peut l'appeler comme ça, qui a résumé dans sa doctrine sur la vie spirituelle, qui a résumé la signification et le comment peut se réaliser la transfiguration du monde, c'est-à-dire par l'Esprit Saint, la plénitude de la grâce de Dieu qui vient transfigurer véritablement le monde à travers la personne du Christ. Donc c'est une épître qui n'a pas été choisie pour Saint Grégoire Palamas, elle existait déjà avant qu'on le fête ce dimanche pour Saint Grégoire. Et comme l'épître dimanche dernier, je vous avais fait remarquer qui était choisi, qui avait été déterminé avant même qu'on ne fête la fête du triomphe de l'orthodoxie. Merci. Dans l'épître, dans les morceaux, dans les passages des quelques versets, il n'y en a pas beaucoup, les quelques versets de l'épître d'aujourd'hui, nous voyons, c'est essentiellement des extraits des Saintes Écritures, des extraits de l'Ancien Testament. C'est toi, Seigneur, qui au principe, on traduit au commencement, mais quelqu'un a écrit dans des commentaires de Septante que le mot commencement est bien édulcoré, mais que c'est au principe des choses. Alors je vous le fais rapporter, si vous voulez. Au principe des choses, principe du monde, tu as fondé, Seigneur, tu as fondé la terre et les cieux sont l'œuvre de tes mains. On parle du Christ, là. L'auteur de l'Épître parle du Christ. Ils passeront, mais toi tu demeures. Tous comme un vêtement, ils vieilliront, et comme un manteau, tu les rouleras. Comme un vêtement, ils seront changés. Mais toi, toujours le même, tu es, et tes aînés ne t'abandonnent pas. Tout cela, c'est une citation du psaume 101. Et l'auteur de l'Épître cite cela pour montrer la transcendance du Christ, pour montrer que celui qui nous est apparu, celui qui est venu sur terre, qui est mort et qui est ressuscité, celui-là que l'Église annonce, il est en même temps le Créateur. Ce n'est pas une autre personne. C'est vraiment le Créateur du ciel et de la terre. Et en même temps, il y a une insistance dans ce passage-là, et c'est comme ça qu'il faut lire le psaume d'ailleurs, même en dehors de l'interprétation de cet épître. Nous voyons que la seule réalité, la seule vérité qui demeure, c'est le Christ, c'est Dieu. Alors que toute sa création, tout du moins dans l'état où elle est, toute la création est transitoire, elle passera, elle est temporaire. Cette première création est appelée à disparaître, ou plus ou moins, plus exactement, à être changée, à être transfigurée, mais pas à rester dans l'état où elle est aujourd'hui. Alors que la seule chose, je mets des guillemets à chose, ou un C majuscule évidemment, la seule chose qui demeure, c'est Dieu. Et Dieu, c'est celui qui nous est apparu dans la personne de son Fils. Et le seul qui soit immuable, c'est le Christ. C'est ce que dit l'Épître, mais... et le psaume, mais toi toujours le même, tu es toujours le même, et tes années ne t'abandonnent pas. Tu restes d'une éternelle jeunesse, tu restes toujours stable. Et puis vient une seconde citation. Et auquel des anges a-t-il jamais dit siège à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis les marches de mon trône, l'escabeau de mes pieds? Ceci est tiré, une citation tirée du psaume 109 que vous récitez, que vous entendez toutes les semaines à l'orthrose. Et siéger à la droite de Dieu, à la droite du Père, est un privilège que n'ont jamais connu les anges. Jésus avait lui-même adopté ce verset-là du psaume, il se l'était approprié, selon l'évangile de saint Matthieu, pour montrer que lui, Jésus, est plus grand même que David. Or, dans l'Ancien Testament, David, comme Moïse, sont des sommets de la révélation et du prophétisme. Ils sont plus grands que David. Il est plus grand que David. Quand il disait, toujours selon saint Matthieu, David lui-même a dit dans l'Esprit Saint, le Seigneur dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je mette l'escabeau, jusqu'à ce que je mette l'escabeau sous tes pieds, excusez-moi de bafouiller. Et donc, par ce verset, nous voyons que le Seigneur, Jésus, qui nous est apparu, qui est venu sur terre, est même plus grand que les anges. Or, qu'est-ce qu'il y a dans le ciel, à part Dieu, plus grand que les anges? Celui qui, justement, s'est fait homme et est descendu parmi nous. Ne sont-ils pas tous, les anges, des esprits au service de Dieu? C'est l'Épître qui continue. Envoyé pour exercer un ministère en faveur de ceux qui hériteront du salut. Faites le parallèle avec ce verset-là, qui est le verset 14 de l'Épître que nous lisons aujourd'hui. Faites le parallèle avec le psaume 90, les versets 11 et 12. Il a pour toi donné ordre à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Sur leurs mains, ils te porteront pour que ton pied ne heurte contre la pierre. Ça doit vous rappeler quelque chose. Ça peut vous rappeler quand le Seigneur, après la tentation, après la triple tentation sur le mont, sur la montagne de Jéricho, au début de sa vie publique, quand il a définitivement vaincu le Satan qui lui était apparu, à ce moment-là, Satan s'en va et les anges le servaient. Car les anges sont des serviteurs. Les anges sont des intermédiaires entre Dieu et les hommes. Dans la tradition juive, nous voyons que la loi ancienne, la loi mosaïque, avait été donnée aux hommes par l'intermédiaire des anges. Mais la nouvelle loi, qui nous vient avec l'Évangile, qui nous vient du Christ, ne nous est pas annoncée par des anges, mais elle nous est annoncée par le Christ lui-même. Et voyez le rôle d'intermédiaire, d'ouvrier, de ministre du Seigneur qu'ont les anges, par exemple à travers le livre de l'Ancien Testament de Tobie, qui est assez mal connu, parce qu'on ne le lit pas souvent et on ne le lit pas à l'église, je veux dire officiellement, on voit que Tobie était accompagné par un ange qui est envoyé par Dieu pour l'aider à accomplir sa mission, et c'était l'ange Raphaël. Donc, les anges nous transmettent la loi divine dans l'Ancien Testament, mais la nouvelle loi qui rend caduque, qui rend provisoire la loi de l'Ancien Testament, c'est-à-dire l'Évangile, la bonne nouvelle, nous est donnée par le Christ lui-même, qui est plus grand que les anges, et nous avions eu la description avant, qui est le seul qui soit immuable, comme nous l'avons lu dans les premiers versets. C'est pourquoi, continue l'Épître, c'est pourquoi nous devons être extrêmement dociles à ce que nous avons entendu, afin de ne pas perdre le chemin. Vous voyez comment cet ensemble de citations, l'Épître qui nous est donné aujourd'hui, les passages de l'Épître qui nous sont donnés aujourd'hui, nous amène concrètement dans le mystère du carême. La raison pour laquelle nous suivons le carême, la raison pour laquelle nous avançons dans cet effort de conversion, c'est le fait que le Seigneur soit immuable et qu'il nous ait donné cette bonne nouvelle. Pour ça, comme il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, pour ne pas perdre le chemin, pour rester unis avec lui, nous le réalisons, nous sommes unis à lui, parce que nous savons que lui est immuable et nous vient directement du royaume des cieux, étant Dieu lui-même. Le « c'est pourquoi » que nous lisons dans l'Épître aujourd'hui exprime les conséquences pratiques de ce qui vient d'être confessé précédemment. Le Christ étant l'unique chemin vers le Père, il faut que nous soyons attentifs. Or, le carême, c'est justement un effort d'attention, que nous soyons attentifs à ne pas perdre de vue le Christ, à ne pas nous laisser détourner par toutes nos conceptions, par nos passions et par une vision trop humaniste du monde et de l'Église, mais véritablement nous attacher à la divinité du Christ à travers son humanité, certes, mais de manière à pouvoir avoir accès avec lui, qui est le chemin vers le royaume des cieux, c'est-à-dire vers la vie divine. Pendant le carême, nous devons veiller à ne pas perdre le chemin du Christ, mais à conserver la foi que nous avons reçue et ne pas la banaliser par l'habitude, ne pas banaliser le message que nous avons entendu par l'habitude, à force d'entendre les notions de salut, de résurrection, tout ce qui est véhiculé par l'Ancien et par le Nouveau Testament. Nous l'entendons tellement souvent que souvent ça risque de perdre pour nous le sens véritable, alors que en toute vérité, là est notre seule richesse, là est la seule chose qui soit pérenne, justement parce que c'est une adhésion à ce Christ qui est inchangé et qui est toujours le même, comme nous l'avons vu précédemment. Voilà, c'est pourquoi, ça, ce sont les conséquences pratiques. Si en effet, poursuit l'auteur de l'Épître, si en effet la parole prononcée par les anges a été confirmée, la parole prononcée par les anges, la parole qui avait été donnée de la loi, dans la loi ancienne, et la confirmation est venue du fait que Dieu avait corrigé, puni, rectifié les transgresseurs de la loi par le passé. Si toute transgression ou désobéissance a reçu son juste salaire, dit l'Épître, donc c'est ce que la justification, la confirmation vient de la pédagogie de Dieu dans l'Ancien Testament, comme d'aujourd'hui d'ailleurs, et d'une autre manière. Comment pourrons-nous échapper, dit l'auteur, si nous négligeons un tel salut? Si nous négligeons, si nous oublions notre attachement à celui qui nous est apparu, qui vit parmi nous, qui est mort et qui est resté, mais auquel nous avons accès, le seul qui soit vraiment le lien entre le ciel et la terre, puisqu'il est à la fois homme, il est à la fois Dieu et à la fois homme, si nous négligeons ce salut-là, quel salut il pourrait y avoir pour nous? Il n'y a pas de salut possible. Salut qui prend son commencement dans la parole du Seigneur et a été confirmé pour nous par ceux qui ont entendu. Voyez le parallèle. Dans l'Ancien Testament, on parlait de la parole prononcée par les anges qui a été confirmée. Maintenant, comment pourrions-nous échapper pour notre salut? Salut qui prend son commencement dans la parole du Seigneur, cette fois-ci, donc dans l'Évangile, est confirmé pour nous par ceux qui ont entendu. Ceux qui ont entendu, c'était les témoins. Et les témoins, c'est par essentiellement les apôtres et les disciples qui ont entendu la parole sortir du Verbe de Dieu, du Christ, pendant qu'il était visiblement sur terre. Mais c'est aussi tous ceux qui portent ce témoignage-là jusqu'à aujourd'hui, tous ceux qui continuent réellement à proclamer cette foi en Christ, Dieu et homme. C'est tous les missionnaires. Or, nous sommes tous missionnaires. Je ne parle pas des missionnaires au sens tardif du terme, mais ce sont tous ceux qui sont tous les membres de l'Église qui sont apôtres et qui propagent la doctrine de la bonne nouvelle. Vous voyez, à travers cela, nous percevons quelque chose du mystère de l'œuvre extraordinaire que Dieu fait pour nous. Le Seigneur travaille pour nous. Et il faut que nous prenions conscience, et ça fait partie de notre foi et du message de l'Évangile, il faut que nous prenions conscience, et le carême est un appel à être plus attentifs à cela, que Dieu se manifeste à nous par d'une multitude de manières, et que tout, sans exception, de tout ce qui nous arrive, d'une manière ou d'une autre, ressenti agréablement ou désagréablement, tout est permis par Dieu de manière à nous faire adhérer au chemin qu'il nous montre et qu'il est lui-même pour nous conduire dans le royaume des cieux. Ainsi, tout ce qui nous arrive, les joies que nous rencontrons, les difficultés auxquelles nous sommes confrontés, les échecs que nous avons à assumer, et même nos passions et nos chutes, tout cela est permis par Dieu et sert, d'une manière mystérieuse, sert à notre salut. Je ne dis pas qu'il faille exprès sombrer dans les passions, évidemment, pour avoir cette expérience-là, mais Dieu se sert de tout cela pour... Nous avons la tête et le cœur tellement, tellement durs qu'il est nécessaire que nous nous heurtions à ces difficultés et à nos échecs personnels pour nous rendre compte que c'est le Seigneur qui travaille en nous et qui transforme les choses et non pas notre propre activité, nos propres efforts ou nos succès. Et dans cette œuvre de Dieu, c'est encore un aspect du carême, dans cette œuvre du Christ permanent à chaque instant de notre vie, d'une manière très concrète, alors que lui travaille à notre salut, nous, qu'est-ce que nous faisons? J'allais dire, le problème de la morale dans l'Église est un problème secondaire. C'est plus facile de suivre une morale, mais l'Évangile n'est pas une morale. Il y a une morale qui en découle, bien sûr, mais ce n'est pas une morale. Nous sommes devenus pécheurs, nous sommes malades. Il est normal, je ne dis pas qu'il soit bon, mais il est normal que la maladie se manifeste. Quand vous avez la grippe, il est normal que vous ayez de la fièvre et que vous ayez la migraine. Et là, quand dans notre péché, dans notre condition de pécheresse, il est normal que notre péché se manifeste, que nos passions se manifestent et que nous ayons l'expérience de nos chutes, hélas, répétées. Mais cela est aussi permis par Dieu de manière, comme je vous disais précédemment, de manière à ce que le Seigneur... Est-ce que nous percevions et mettions notre confiance dans le Seigneur qui nous fait dépasser notre condition humaine par la transfiguration. Donc, si notre vie dans l'Église n'est pas directement une vie morale, n'a pas pour but d'être une morale, le nœud de notre relation avec Dieu est de la force, l'intensité que nous mettons à découvrir sa présence, à découvrir sa personne, à le connaître et à nous unir à lui. Et nous, qu'est-ce que nous faisons? Et là, précisément, est véritablement le péché, pas les transgressions à la morale, mais vraiment le péché, qu'est-ce que nous faisons? Souvent, nous écartons le Christ. Souvent, nous perdons le chemin, justement. Nous sommes inattentifs au chemin qu'est le Christ. Nous confions davantage en nos propres forces, par nos efforts, par notre jeûne, par notre prière. Préférant nous assurer du salut par nos propres forces plutôt qu'à nous remettre, malgré tous nos échecs, à nous remettre purement et simplement dans les mains de Dieu en voyant qu'il accomplit des merveilles par sa grâce. Et comment nous nous détournons de lui? Parce que de mille manières, on l'écarte. Seigneur, je ne comprends pas. Je tombe malade. Alors que je prie autant que je peux prier, alors que je jeûne et tout ça. Alors, à quoi ça sert? Seigneur, je ne comprends pas qu'alors que je suis chrétien, quand je mets un enfant au monde, cet enfant-là meurt. Par exemple, je prends des moments, des aspects intentionnellement tragiques, si vous voulez, humainement parlant. Mais si on avait conscience, si on suivait véritablement le chemin, cet enfant qui meurt à sa naissance, c'est directement quelqu'un qui est engrangé déjà dans le royaume de Dieu. On ne devrait pas avoir cette peine, si je puis dire. Si vous voulez, notre foi devrait dépasser notre. Et ceci est vrai pour toutes nos difficultés. Seigneur, oui, je n'ose pas dire que tu me casses les pieds, mais enfin, tout de même. À cause de toi, je vais quand même pas, moi, ne pas avoir de copains à l'école. Autrement dit, je ne vais pas rester fidèle à ma foi alors que ça me sépare de tout le monde. Je ne vais quand même pas accepter la mort en cas de persécution. Je vais quand même pas aller jusqu'à la mort sous prétexte de te suivre. Je ne prends que ces exemples-là dans notre vie de tous les jours. Heureusement, on n'est pas confronté aux martyrs en permanence. Mais cependant, souvent, et faites attention à cela, vous verrez que nos péchés consistent à cela. Seigneur, oui, je t'aime bien. Enfin, quand même, j'ai besoin de me reposer. Je ne vais quand même pas à la liturgie parce qu'il faut bien que je me repose. Et mille autres, c'est la même chose pour le jeûne, c'est la même chose pour la prière, c'est la même chose pour le sommeil. Dans tous nos domaines, dans tous les domaines, nous sommes tentés de dire, Seigneur, je t'aime bien, mais écarte-toi un petit peu parce que ta présence me gêne. Or, l'épître d'aujourd'hui, comme je vais essayer, si j'ai un peu de constance, de vous les expliquer de dimanche en dimanche, toutes les épîtres, et évidemment tout au long de l'année, mais notamment pendant ce carême, tendent à nous faire reprendre conscience devant qui nous sommes et de l'importance de le suivre, car là est véritablement le salut.